C'est Claire Vigier qui nous a rejoint dans ce studio pour nous présenter les infos. Bonjour Claire.
Bonjour. Un week-end musical dans plusieurs régions du canton et notamment à Corneau. Le Corn Rock, qui a vécu sa 11e édition, tire le bilan avec son programmateur Mike Farny. Union Neuchâtel se retrouve dos au mur. Les joueurs de la Riveraine ont été battus 74-64 par Massagno hier lors de l'acte 3 des demi-finales des playoffs de Swiss Basketball League. Ils sont désormais, les Neuchâtelois, menés 2-1 dans cette série. Une fessée pour Neuchâtel Xamax qui s'est incliné 6-1 à domicile contre Vaduz pour le dernier match de la saison de Challenge League de football. Pas vraiment de quoi se rassurer avant le barrage pour le maintien qui se disputera face à Rapperswil. Et puis du soleil, 20 à 24 degrés dans les thermomètres et quelques cumulus sans conséquence sur le relief. La météo semble avoir pris le virage de la belle saison. Après 2022 dans une carrière, le Corn Rock retrouve sa terre d'origine. A retrouvé sa terre d'origine ce week-end, le Festival Open Air a réinvesti le terrain de sport de Corneau pour accueillir, à l'occasion de sa 11e édition, des groupes tels que Black Rain, Les Trois Fromages ou encore Cachemire. Pour en parler, nous recevons le programmateur du Corn Rock, Mike Farny. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le festival s'est terminé cette nuit.
Voilà, tout à fait.
Quel est le premier bilan que vous pouvez en tirer ?
Eh bien, un bilan extrêmement positif. On est vraiment heureux, tout s'est bien passé, la météo était avec nous, la logistique s'est magnifiquement bien passée, les gens ont été vraiment heureux, les artistes ont souligné vraiment l'accueil du festival et on est vraiment très fatigué, mais on est très satisfait.
C'est très bien, comme son nom l'indique, hein, le Corn Rock se veut résolument rock, alors le rock c'est un vaste sujet. Vous pariez sur quel style à Corneau ? Qu'est-ce qui plaît au public ?
Alors l'idée c'est de toujours en fait varier par thème. Par exemple, cette édition, la 11e édition, on était sur un vendredi très rock francophone, donc tous les groupes chantaient en français, c'était vraiment une envie particulière. Et pour le samedi, on était plutôt sur un côté un peu plus glam, un peu plus classique rock, quelque chose de beaucoup plus traditionnel.
Et ça, le public a répondu présent, a apprécié ?
Eh bien oui, en fait, c'est ça qui nous fait vraiment super plaisir, c'est de voir qu'il y a encore un public pour le rock en 2023 et que les gens ne sont pas là simplement pour quelqu'un qui appuie sur la touche espace d'un MacBook Pro. Donc c'est vraiment génial, ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça.
Vous avez attiré combien de personnes ?
Alors là, on était sur une moyenne entre 600 et 800 personnes par soir, donc on était vraiment heureux de pouvoir continuer sur la même, veine que l'édition anniversaire des 10 ans. Du coup, on se réjouit déjà de la prochaine édition.
Alors, pour cette 11e édition, alors vous êtes retourné sur le terrain de sport et vous avez complètement revu le site, notamment agrandi les scènes.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir donner une pérennité à l'édition anniversaire, mais en revenant sur la terre d'origine, comme vous l'avez dit avant, avec quand même les deux scènes qui ont été agrandies. Le site a été agrandi et complètement réarrangé afin de faciliter les accès artistes et les accès publics, avec aussi toujours de la variété dans le choix des repas, dans le confort des spectateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de toujours aller de l'avant et améliorer les choses logistiquement parlant.
Alors vous avez l'air très satisfait. Comment faire mieux pour 2024 ?
Alors on peut toujours faire mieux. On peut encore toujours corriger plein de choses, même si là on est vraiment très convaincu du plan, comme il a été designé comme ça. Donc on risque de le faire perdurer comme ça. Mais on peut toujours faire mieux pour une... J'irai une 12e édition, on pourra partir sur quelque chose de peut-être encore un peu plus grand. On pourrait encore agrandir les scènes, on pourrait professionnaliser encore plein d'autres choses. Mais pour l'instant, on est plus que heureux de cette édition-là.
Donc si on vous entend bien, une 12e édition, il y aura ?
Oh oui, il y aura. Et comme dirait Michel et Michel, il y aura du lourd, du très très lourd.
Vous avez une date ?
Alors on va partir sur fin mai, on va pas encore vous donner de date précise, mais en tout cas fin mai de sûr, donc on vous donne rendez-vous à Corneau en fin mai 2024.
Le rendez-vous est pris, Mike Farny, vous êtes le programmateur du Corn Rock, on vous remercie d'être venu dans nos studios.
Merci pour l'invitation.
Et puis on signalera encore qu'une autre manifestation s'est achevée la nuit dernière, c'était le Corbac Festival, on en parle ce soir dans le journal de 18h. Les Occidentaux jouent avec le feu. La déclaration du ministre russe des Affaires étrangères après le feu vert récent des États-Unis pour des livraisons futures d'avions de combat F-16 à Kiev. Sergueï Lavrov déplore une escalade inacceptable. Clore ou prolonger l'ère Erdogan, la Turquie retourne aux urnes aujourd'hui pour le second tour inédit de l'élection présidentielle. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan entamera en cas de victoire un troisième mandat, une décennie à la tête du pays. Il part favori face au social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. À moins d'une surprise, les résultats sont attendus dans la soirée. Le Festival de Cannes s'est achevé hier soir avec la remise de plusieurs prix, dont la Palme d'Or. C'est la Française Justine Triet qui remporte le trophée pour Anatomie d'une chute. Ce film qui raconte l'histoire d'une femme accusée du meurtre de son mari a séduit le jury, présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund. Caroline Toussaint.
Le jury a donc décidé de récompenser une femme, Justine Triet, qui devient de ce fait la troisième réalisatrice à remporter une palme d'or dans l'histoire du Festival de Cannes. Son film « Anatomie d'une chute » devait d'abord être une série, mais Justine Triet a préféré un long métrage, le plus intime qu'elle ait réalisé jusqu'alors. C'est l'histoire d'un procès, celui de Sandra, qui est soupçonnée du meurtre de son mari Samuel. Leur relation est alors disséquée devant la cour. Le film met en avant les dynamiques de pouvoir au sein d'un couple d'artistes aisés. Il expose aussi les préjugés sociaux auxquels se heurtent les femmes indépendantes.
Et plusieurs autres prix ont encore été décernés à Cannes hier soir, notamment le prix de la mise en scène remis au franco-vietnamien Tran Anh Hung pour La Passion de Dodine Bouffant. En Suisse, les jeunes femmes se positionnent de plus en plus à gauche sur l'échiquier politique depuis le début des années 90. Les jeunes hommes se situent davantage à droite selon un sondage Sotomo réalisé pour la NZZ am Sonntag. Le fossé entre les deux sexes existe aussi chez les personnes plus âgées. Selon l'évaluation de Sotomo, les votations lors desquelles la majorité des hommes voulait autre chose que la majorité des femmes se sont multipliées au cours des trois dernières années.
RTN, 12h21.
Sport.
Et le sport, c'est en votre compagnie, Yann Esler. Bonjour.
Bonjour Claire, et on va parler de basketball. Union Neuchâtel n'a plus le droit à l'erreur. Les hommes de Mitar Trivunovic ont subi la loi de Massagno 74-64 hier soir à la Riveraine à l'occasion de l'acte 3 des demi-finales des playoffs de Swiss Basketball League. Après cette défaite, les unionistes se retrouvent donc menés 2-1 dans cette série au meilleur des 5 matchs. Les joueurs de la Riveraine ont pourtant longtemps cru en leur chance devant les 1665 spectateurs de la Riveraine. Menés d'un point à 5 minutes du terme de la partie, les unionistes ont donc craqué dans le money time. De quoi nourrir des regrets pour le capitaine Kylian Martin.
C'est amer parce que ouais, je pense qu'on laisse le match filer dans la deuxième partie du quatrième quart et c'est toujours frustrant parce que voilà, on a quand même réussi à les tenir. On n'a pas joué notre meilleur basket, notamment en défense. On a fait pas mal d'erreurs, mais on est resté dans le match. Et voilà, c'est toujours frustrant de laisser filer un match comme ça dans les dernières minutes. On peut les faire douter, on a réussi à le faire pendant le premier match. Aujourd'hui, je pense qu'on pouvait aussi le faire. Et voilà, je pense que leur expérience... Elle a su nous punir dans les moments clés de ce match à la fin.
Vous revenez à un point, deux points, même à égalité. C'est justement, selon vous, l'expérience qui fait la différence à ces moments-là?
Oui, et puis bon, aussi la rotation. Je pense qu'à un moment, il faut voir les choses en face. On est aussi fatigué de cette série. Donc voilà, aujourd'hui, c'était un peu plus dur de se battre. Mais mardi, ce sera la guerre et ce sera win or go home.
Kylian Martin au micro de Guillaume Joly. Union Neuchâtel est donc menée 2-1 dans cette série et la formation de la Riveraine devra impérativement s'imposer mardi lors de l'acte 4 pour éviter la fin de saison. Mais la tâche a été rendue bien plus ardue, on l'a appris ce matin, car Union Neuchâtel devra se passer de son top scorer pour ce match d'Alan Engram. Auteur d'une faute antisportive dans les dernières secondes de ce troisième match, il sera suspendu mardi. Dans l'autre demi-finale, Fribourg Olympique s'est défait de Genève, 93-67, et les Fribourgeois remportent leur série 3-0. Il se qualifie donc pour la finale des playoffs. Le dernier match de la saison de Challenge League de football a viré au cauchemar pour Neuchâtel Xamax. Hier soir à la Maladière, les Rouges et Noirs se sont inclinés 6-1 contre le FC Vaduz. Pas de quoi vraiment se rassurer avant le barrage de promotion-relégation contre le FC Rapperswil qui aura lieu la semaine prochaine. Un barrage pour lequel Ayouf Wafza n'a pas de certitude absolue. Écoutez sa réaction au terme de la défaite d'hier soir.
On part favori, mais dans les matchs comme ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de favoris parce que voilà, on aura un adversaire en face qui va tout donner aussi. Et donc nous aussi, on va tout donner. Donc maintenant, il est clair que si on met les ingrédients, on met ce qu'il faut, on met ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs, en oubliant celui-là, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Maintenant, on verra sur le moment venu. Quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Vous êtes allé parlementer avec les spectateurs, il y en a certains qui étaient un peu fâchés?
Oui, un petit peu fâchés. Après, c'est compréhensible aussi de prendre 6 buts à la maison avant un match capital. C'est clair que pour la confiance, ça émet des doutes dans les têtes des gens. Donc on se devait d'aller leur parler, de calmer la situation et d'expliquer un peu les choses. Et de dire que voilà, c'était un accident et qu'il faut oublier ce match, se concentrer sur les deux derniers qu'on a fait de très bien, dont une victoire à la maison Et voilà, préparer le prochain qui va être ultra important. Et bien, il faut oublier celui-là et on passe à autre chose. Et on a un petit peu de temps pour préparer celui de mercredi.
Ayo Boivza répondait à Nicolas Bondelier. Donc pour sauver sa place en Challenge League, Neuchâtel Xamax affrontera le FC Rapperswil lors d'un barrage qui se dispute en match aller-retour. Les Saint-Gallois ont assuré leur place en barrage en battant Bavois 3-1 hier en Promotion League. Première étape donc mercredi prochain en terre saint-galloise. A noter hier que le Lausanne Sport est promu en Super League et que Stade Lausanne-Ouchy disputera un barrage contre le dernier de Super League. Toujours en football, la finale de la Coupe Neuchâteloise se tient ce soir à 20h à Pierre-Rabaud à Neuchâtel. Le FC Bosna Neuchâtel, pensionnaire de 3e ligue, affronte le FC Saint-Blaise qui milite lui en 2e ligue. En France, le Paris Saint-Germain a sans surprise cueilli le 11e titre de champion de France de son histoire. Lors de la 37e journée de Ligue 1, il a fait match nul 1 partout à Strasbourg et ne peut plus être rattrapé. Au Portugal, le Benfica a été sacré champion pour la 38e fois. Il s'est assuré du titre en battant le relégable Santa Clara lors de la dernière journée. On passe au tennis, place à la deuxième levée du Grand Chelem de l'année. Roland Garros commence aujourd'hui sur la terre battue parisienne. Jill Teichmann sera la seule des 7 représentants suisses à entrer en lice lors de cette première journée. La gauchère biennoise est en quête de rebond, elle qui a perdu près de 50 places au classement après une dernière année très décevante. Elle se mesure à Sarah Errani vers 17h au premier tour. Ex numéro 5 mondial, l'Italienne avait atteint la finale à la Porte d'Auteuil en 2012, même si son adversaire aujourd'hui a 36 ans, Jill Teichmann se méfie.
Sarah, elle est une joueuse très forte. Elle a eu une carrière et encore une carrière vraiment bonne dans le simple, dans le double. Donc elle a beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle a saison plusieurs fortes, probablement. Bien sûr, le résultat dans les dernières années n'était pas les meilleurs, mais quand même, elle est ici, elle est dans le tableau final, donc ça veut dire quelque chose.
Et Jill Teichmann aborde ce tournoi en panne de confiance. Elle n'a d'ailleurs gagné qu'un match en 4 tournois disputés sur le circuit principal sur terre battue, la surface qui convient pourtant le mieux à son jeu. La Zélandaise a une place de 8e de finaliste l'an dernier à défendre à Roland-Garros. Elle ne veut toutefois pas penser aux points WTA qui sont en jeu. Jill Teichmann.
Si je pense comme ça, j'ai une dépression. Donc non, ça c'est pas du tout la mentalité. La mentalité c'est toujours, ouais, ces points c'est son parti. Parce qu'ils vont partir comme cette semaine ou deux semaines, mais ils vont partir. Nous, les joueurs de tennis, la mentalité c'est que chaque année, on essaye de gagner des matchs et de recevoir des points, pas de défendre. Parce que si on pense comme ça, on ne peut pas jouer. On a trop de pression. Et quand même, on a toujours des pressions quand même. Donc ça n'aide pas du tout.
Jill Teichmann affronte donc l'Italienne Sarah Errani vers 17h au premier tour de Roland-Garros. En cyclisme, Primoz Roglic remportera sauf accident son premier tour d'Italie cet après-midi à Rome. Le Slovène de 33 ans s'est emparé du maillot rose en remportant hier la 20e étape. Un contre-la-montre, il a repris pas moins de 40 secondes à l'ancien leader, le Britannique Geraint Thomas, et il le devance de 14 secondes au général. En Formule 1, Max Verstappen partira en première place du Grand Prix de Monaco. Le Néerlandais a devancé le vétéran espagnol Fernando Alonso lors des qualifications. La deuxième ligne sera composée par Charles Leclerc et Esteban Ocon. Départ donc à 15h. Enfin, hockey sur glace, le Canada va disputer sa 4e finale consécutive dans un championnat du monde en Finlande à Tampere. Vainqueur de la Lettonie 4-2 hier, les joueurs à la feuille d'érable retrouveront l'Allemagne qui a battu les États-Unis 4-3 après prolongation. We'll be right back.